C'est la fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side, en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de Lautréamont. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassili Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je trouve Malevitch pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition, d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. Ce soir, pour la deuxième émission de la saison, on part en Amérique du Sud, du Mexique, à la Terre de Feu. L'exposition qui a ouvert ses portes il y a un mois à la Fondation Cartier pour l'art contemporain propose d'explorer les créations d'Uruguayens, Brésiliens, Boliviens ou encore Argentins, abstraites et pour la plupart géométriques. L'expo nous a plu, on en discute en deuxième partie, comme d'habitude avec Boris, Marie et Galadriel. Pour la première partie de l'émission, je vous propose un voyage philosophique sur la notion d'hospitalité au Musée national de l'histoire de l'immigration en compagnie d'Isabelle Renard, la chef du service des collections et des expositions. Mais avant ça, il est temps de vous présenter Enora, qui n'avait pas pu être présente il y a un mois. Salut Enora, quelle est ta spécialité et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Alors salut, je suis Enora, j'ai un parcours en archéologie classique et histoire spécialisée sur l'Amérique préhispanique. Donc le Mexique, le Pérou et la Colombie qui a été mon terrain de jeu pour mes recherches. Aujourd'hui, je suis conservatrice dans un musée d'histoire de la résistance dans l'Aube. L'idée, c'est que je vais vous faire découvrir cette année les particularités de ces musées d'histoire, donc les collections spécifiques d'archives, de patrimoine scientifique et technique qui y sont exposées, et parfois aussi, j'espère, un petit peu d'archéologie.
Pour ta première chronique, tu te places déjà dans le domaine des sciences.
Alors moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de ces expositions qui n'ont pas vocation à présenter ce qu'on appelle les beaux-arts, mais plutôt l'histoire et les avancées techniques et scientifiques de nos ancêtres, proches ou moins proches. En effet, quand j'ai parcouru Internet en tapant « exposition plus Paris », en me demandant « tiens, mais de quoi je vais bien pouvoir parler pour ma toute première chronique dans Museum Side », je suis tombée sur des titres parfois loufoques, parfois intrigants. Par exemple, Patate, une exposition actuellement proposée à la Cité des Sciences qui sonne comme une insulte légère mais grivoise adressée aux voyageurs du métro qui en regardent l'affiche, ou encore Néandertal que l'on retrouve au Muséum National d'Histoire Naturelle. Deux expositions donc, au titre concis, mais qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, vous, amateurs de féculents et de soirées fourrures au coin du feu, allez être servis. Et en lisant les descriptifs de ces expositions, quelle ne fut pas ma surprise de réaliser que tous deux semblaient avoir été rédigés via un générateur de texte, tant le vocabulaire et les expressions employées se ressemblaient. On y parlait de parcours ludiques, adaptés au programme scolaire et favorisant l'éducation artistique et culturelle, et de manipulations à destination immersive. Tout laissait croire donc que ces expositions allaient effectivement permettre aux petits de bien se fendre la poire pendant que nous, adultes et jeunes adultes, allons passer une heure à nous préoccuper du bruit, de répondre à des pourquoi et accessoirement ne pas perdre l'enfant curieux dans le parcours. En scrollant un peu plus sur le World Wide Web, je suis tombée sur d'autres propositions d'expositions comme l'archéologie en bulle, en cours dans la petite galerie du Louvre, ou Il était une fois la science dans les contes à la Cité des Sciences, qui semblaient toutes deux aller dans ce même sens. Les sciences, qu'elles soient dites dures ou bien des sciences humaines et sociales, semblent ne s'exposer que pour un public jeune, comme si l'on supposait qu'il était moins sensibilisé à l'art, et que les moins jeunes n'y portaient, à l'inverse, aucun intérêt. En revanche, mettre un peu d'art, mais attention, point trop n'en faut, dans ces mêmes expositions, via la bande dessinée ou les contes, permettrait de faciliter l'accès à des propos plus complexes, en l'occurrence ici, la présentation de sites de fouilles, de stratigraphie et de reconstitution de céramique, ou bien encore l'intégralité du programme scolaire de CM2. Alors quid des expositions pour les plus grands sur ces sujets ? Cherchant désespérément à en apprendre un peu plus sur le monde et ses moultes facettes, j'ai donc continué gaiement ma recherche. Deux autres expositions m'ont tapé dans l'œil. À l'Est de la guerre, 1918-1923, au musée de l'armée, et l'hygiène au Moyen-Âge, à la Tour Jean sans peur. Si l'une semblait axée autour de la compréhension factuelle et chronologique d'un épisode historique, l'autre proposait en revanche une approche certes originale, mais néanmoins thématique. Vous avez 3 heures. En somme, tout semble fonctionner comme si les expositions d'histoire et de sciences n'avaient qu'une fonction didactique à destination des scolaires, laissant les autres dans leur fonction supposée de « déjà savants » et auxquels le droit d'apprendre en s'amusant est relégué au second plan, voire à aucun, notamment derrière les expositions sur des grands maîtres et ou des grandes civilisations. Pourtant, sortir d'une exposition Picasso, voire 2, voire 10, et se dire « tiens, j'ai appris quelque chose », au-delà de la simple délectation, c'est possible, et c'est même recommandé. Pourquoi alors visiter une exposition sur les pommes de terre et en profiter lorsque l'on est plus âgé s'avère si complexe? À quand des expositions scientifiques dans lesquelles il ne serait plus uniquement question d'enseigner aux petits, mais aussi leur donner du plaisir à parcourir et à voir en mélangeant les types de collections présentées? Et à quand de mêmes expositions à destination des plus grands, pourvues d'un discours scientifique pédagogique adapté et vivant? Si les dispositifs de médiation comme de scénographie tentent de combler ces lacunes, notamment par le biais du numérique qui prend une place importante dans ces parcours, il reste encore beaucoup à faire pour permettre à la fois le mélange des publics, comme l'éclatement des hiérarchies au sein des expositions, qu'elles soient permanentes ou temporaires.
Merci Nora. Je vous propose de commencer l'émission avec un voyage au Musée national de l'histoire de l'immigration Porte Dorée à Paris. Si vous n'avez jamais pénétré dans cette institution, c'est le moment de vous y rendre pour voir le parcours permanent bien sûr, mais aussi pour visiter l'exposition temporaire Persona Grata, présentée à la fois dans ce musée mais aussi au MACVAL, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Une autre institution à visiter de toute urgence si vous n'y êtes pas encore allé. Alors l'exposition interroge la notion d'hospitalité à l'aide des philosophes Fabienne Brugère et Guillaume Blanc, auteurs du livre « La fin de l'hospitalité, l'Europe, terre d'asile », une notion à repenser en pleine crise migratoire européenne. Retour sur la genèse du projet avec Isabelle Renard, la chef des collections et des expositions du Musée national de l'histoire de l'immigration, commissaire de très belles expositions comme « J'ai deux amours » en 2011 ou « Ciao Italia, un siècle d'immigration et de culture italienne en France, 1860-1960, qui était donc présente dans le musée l'année dernière.
Bonjour Isabelle Renard.
Bonjour.
Alors vous avez conçu l'exposition au Musée national de l'histoire de l'immigration avec Anne-Laure Flacelière autour de la notion d'hospitalité, en travaillant avec Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, qui ont écrit donc un livre qui s'appelle « La fin de l'hospitalité ». Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce projet ?
Oui, tout à fait. Alors les deux musées, le Musée national de l'histoire de l'immigration et le MACVAL, ont décidé de travailler ensemble pour interroger le sens de l'hospitalité aujourd'hui, cette notion d'hospitalité. Et ils l'ont fait notamment à travers leurs collections respectives d'art contemporain. Donc j'ai travaillé sur cette exposition ici avec Anne-Laure Flacelière qui est du MACVAL, et Persona Grata est un projet sur deux lieux. Il y a donc un volet que vous verrez ici, un autre volet au MACVAL qui lui a été réalisé par Ingrid Jursak. Donc effectivement, nous sommes beaucoup interrogés sur la façon dont on allait questionner cette notion, de ce concept de l'hospitalité aujourd'hui. Et donc nous avons cheminé à travers nos collections respectives. Alors ici, au Musée national de l'histoire de l'immigration, vous verrez essentiellement des collections qui proviennent du MACVAL, des œuvres qui proviennent du MACVAL. Il y a quelques œuvres qui appartiennent à nos collections, qui sont des acquisitions totalement récentes. Je pense notamment aux œuvres d'Enrique Ramirez comme La Casa ou La Gravedad, et puis il y a quelques prêts aussi. Nous avons aussi voulu travailler avec deux philosophes, Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, qui sont effectivement les auteurs de La fin de l'hospitalité. Et je dis souvent que nous avons fait une exposition qui est une exposition à 4 mains, déjà Anne-Laure Flacelière et moi-même, mais je dirais même à 8 mains, parce que pour construire un peu le cheminement, nous nous sommes beaucoup inspirés, enfin nous avons beaucoup lu La fin de l'hospitalité, et nous avons au fur et à mesure du choix des œuvres, de l'élaboration de la liste d'œuvres, nous travaillons point de pointe avec des rendez-vous réguliers avec Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, où nous leur exposions en fait le choix qu'on était en train de faire, et petit à petit, comme ça, en fonction aussi de leur vision, de leur regard, de leur rapport aussi, on a construit ce parcours qui est un parcours en 5 chapitres et qui voilà, laisse, où nous avons mis ensemble certaines œuvres, mais tout en ce sont des œuvres qui sont très fortes, qui portent leur propre discours, donc tout en laissant aux œuvres la possibilité de dialoguer entre elles, de dialoguer avec les textes des philosophes, puisque Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc ont écrit l'ensemble des textes de séquence qui scandent l'exposition, donc de dialoguer avec ces textes, mais aussi on a laissé aux œuvres la possibilité de se déployer dans leurs engagements pluriels et dans leur polysémie.
Est-ce que c'était important pour aborder la question migratoire qu'il y ait un appui sur ce texte-là de philosophe? Est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez voulu travailler en écho avec un texte?
Alors oui, alors je dirais pas un appui, c'est vraiment un regard aussi, en plus. Ça a été bien évidemment un plus parce que d'abord nous avons travaillé à partir de nos propres collections, hein, comme je vous le disais, si ce n'est quelques prêts que nous avons fait auprès d'institutions publiques ou privées. Mais c'était important. On ne peut pas tout dire, les œuvres, toutes les œuvres ne montrent pas tout, et notamment on aborde à un moment dans la troisième partie toute cette notion liée effectivement à l'accueil, à la réciprocité, à la main tendue, et on a trouvé peu de travaux finalement sur qui montre ça, qui donne à voir cette notion-là. Et puis il y avait des œuvres qui ne traduisaient pas certaines notions qu'avaient mises en avant Fabienne et Guillaume, et en fait leurs textes qui ne sont pas, parce que à côté de chaque œuvre il y a un cartel qu'on a rédigé effectivement à 4 mains cette fois-ci avec Anne-Laure qui reprécise l'œuvre, le sujet de l'œuvre, mais les textes de Guillaume et Fabienne permettaient aussi non seulement d'avoir cette vision globale, mais aussi de parler finalement de ce qu'on n'avait pas, de ce que les œuvres ne montraient pas, ou de l'absence de certaines thématiques qui n'étaient pas représentées par des œuvres.
Et d'ailleurs, vous avez complété les cartels avec des petites vidéos, des entretiens qui ont été réalisés avec les deux philosophes, avec certains des artistes. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait de voir les artistes aussi parler de leurs œuvres, comme Sarkis, comme...
Tout à fait, voilà, ça c'était très important pour nous. Évidemment, comme nous avons 39 œuvres et 31 artistes représentés, donc on ne pouvait pas faire des interviews de tout le monde, mais on a choisi effectivement quelques artistes comme ça, qui étaient peut-être les artistes dont les œuvres se rapprochaient plus de l'actualité, enfin du très contemporain. Et effectivement, ce sont Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc qui ont mené les interviews, qui sont des petites courtes vidéos de ces artistes qui finalement expliquent ou replacent, recontextualisent effectivement leurs propres œuvres.
Alors, persona grata, Eldorado, quand on entre dans l'exposition, les mots ont vraiment leur importance, je trouve, dans votre exposition.
Tout à fait. Alors là, c'est en plus, vous citez deux œuvres. Ce sont deux œuvres. Hein. En fait, c'est des écritures en néon. Ce sont deux œuvres qui ont été réalisées d'ailleurs par le même artiste, Lawari Mohamed Bakir. Eldorado qui ouvre vraiment l'exposition. On a ce néon noir, l'Eldorado, pays chimérique, hein, vers lequel on a tous allé, un Eldorado, on porte tous un Eldorado en soi, et cet Eldorado, pays chimérique, dans lequel la vie serait meilleure, mais à condition justement que l'hospitalité soit au rendez-vous. Là, Lawari Mohamed Bakir fait référence aussi à ces populations africaines qui arrivent, qui partent de leur pays et qui arrivent à Almeria, au sud des portes de l'Europe, en Espagne, et qui se retrouvent confrontés face aux difficultés justement de l'accueil face à des murs comme ça. Et ce qui est intéressant dans cette œuvre, cette première œuvre de Lawari Mohamed de Bakir qui ouvre l'exposition et qui accueille le visiteur, c'est que l'Eldorado qui devrait briller de tous ses feux est ici peint en noir, le néon est peint en noir de façon à rejeter toute sa lumière vers l'intérieur, vers le mur. Donc voilà, une œuvre justement métaphorique, métonymique pour, qui symbolise effectivement cette difficulté liée à l'accueil quand on arrive dans un pays. Et puis cette autre œuvre, Persona Grata, donc, qui donne le titre à l'exposition. Qui est une acquisition récente d'ailleurs du Musée National de l'Histoire de l'Immigration, qui est elle-même une œuvre de Lawari Mohamed Bakir. Persona Grata, cette locution latine hein, qui signifie personne bienvenue, mais qui fait aussi référence au langage diplomatique. Une persona grata, c'est une personne qui est agréée par son État ou par un État tiers, qui est accrédité, qui reçoit l'agrément. Et évidemment, qui signifie expression, écriture en néon, qui signifie ce désir d'être accueilli, accepté, compris. Et en fait, l'artiste, là aussi, est très intéressant, pointe en creux, finalement, son antonyme, persona non grata, qui est d'ailleurs une expression qui vient aussi très facilement comme ça. Donc, il joue, on voit que dans ces deux œuvres, on voit déjà la polysémie des œuvres, on voit cette acception qui est double, hein, souvent, et l'artiste ici joue vraiment entre les deux expressions. Il crée un piège linguistique, finalement, là aussi, pour nous amener à réfléchir sur les conditions d'accueil et d'hospitalité.
J'ai vraiment vu votre exposition comme un cheminement. D'ailleurs, la mer est très présente. Cet endroit liquide qui cristallise un peu toutes les crispations en ce moment sur la question des migrants.
Alors, effectivement, vous avez raison. Donc, la mer, alors, c'est pas le seul lieu. On commence avec la mer. La mer, on la retrouve un peu à chaque fois. On termine avec la mer. C'est un peu un fil conducteur. Mer de passage, évidemment, il y a d'autres voies, hein. Les migrants partent aussi à pied, aussi en train, aussi en avion. Là, il se trouve qu'il y avait parmi les œuvres, encore une fois, dans nos collections, beaucoup d'œuvres liées à ce médium. La mer est très présente. Elle hante pratiquement tout le travail d'Enrique Ramirez, puisque les trois œuvres que nous présentons sont liées à la mer, de près ou de loin. Donc, effectivement, cette mer qui est un peu un fil conducteur. D'ailleurs, Guillaume Leblanc et Fabienne Brugère l'écrivent eux aussi. Au commencement, il y a la mer dans leur livre, La fin d'hospitalité, dans le passage, vos demandes d'hospitalité. Donc ça, c'était extrêmement important. Il y a cette œuvre qui est très forte de Laura Hainaut, qui s'appelle Coropa, qui est un des premiers courts-métrages qu'elle a fait dans l'océan Indien, au large des Comores, et où elle filme, finalement, la nuit. Elle va filmer l'exploitation de mineurs qu'on va initier à pour le passage de migrants clandestins vers Mayotte, département français d'outre-mer, vers les portes de l'Europe. Donc c'est un film très très fort, puisqu'on a ce jeune orphelin, pardon, et qui est initié par son père adoptif, le commandant Ben, et qui va l'amener à devenir lui-même passeur. Effectivement, donc on a cette présence de la mer, et puis on retrouve aussi la mer à la fin, à travers deux œuvres, cette voile très belle d'Enrique Ramirez, qui s'appelle, dont le titre est numéro 3, mais entre parenthèses voile migrante, la voile qui incarne parfaitement cette polysémie, c'est-à-dire qu'à la fois étendard, liberté, voyage, mais c'est une voile qui est renversée, donc qui peut représenter aussi l'Amérique du Sud à l'envers, mais aussi un bateau échoué. C'est une voile qui fait 4,82 m et qui représente les 4820 personnes qui ont trouvé la mort en Méditerranée en 2016. Et puis on termine effectivement avec cette très belle vidéo de Zineb Sedira, Middle Sea, voilà, tout est dans le titre, au milieu de la mer. C'est un bateau qui part, hein, ce qui part d'Alger où il revient, c'est un voyage contraint, choisi, un voyage touristique, on ne le saura pas. Mais le héros, c'est effectivement cette mer, ce no man's land, qui éloigne ou qui relie, et ce moment où finalement l'idée d'un entre-deux peut se mettre en place. Donc la mer, comme vous disiez, qui est à la fois ligne d'horizon, d'illusion, de désillusion, mais d'espoir, voilà.
Et est-ce que du coup c'était important aussi que le musée de l'histoire de l'immigration prenne position, enfin dise quelque chose de la crise des migrants?
Alors, nous, on a...
Ce qui est une dimension politique, clairement aussi, légèrement derrière...
Si vous voulez, nous, c'est à partir d'œuvres d'art contemporain, c'est à partir de nos collections, donc forcément, les œuvres. Mais les œuvres que nous présentons, comme vous avez pu le voir, elles sont souvent métaphoriques et métonymiques. Hein, elles ne sont pas totalement littérales. Effectivement, ce sont des œuvres qui questionnent, qui interrogent, qui nous amènent peut-être à penser autrement. Ce sont des œuvres qui, pour certaines, sont critiques, qui sont engagées, concernées, politiques, je dirais, effectivement, mais qui n'oublient jamais leur part de poésie. Donc, effectivement, nous avons... ce sont aussi les œuvres qui portent vraiment ce discours. Mais nous, en tous les cas, il était hors de question que... il n'était pas du tout question d'être moralisateur ou quoi que ce soit. C'était vraiment, voilà, donner à voir à travers le regard des artistes, qui peut être un regard subjectif, qui est un regard personnel, mais en tous les cas, à travers ce médium contemporain et à travers le prisme de ces collections.
Et vis-à-vis des artistes, est-ce que ils se sont sentis concernés? Pour eux, c'était aussi pas une réponse, ce serait maladroit de dire ça, mais
il y a un moment, il faut se mobiliser aussi peut-être du côté de l'art contemporain et montrer l'hospitalité, contrairement à ce que nous renvoient les médias sur la crise migratoire, par exemple.
C'est une exposition. Il n'y a pas d'œuvre qui a été produite pour cette exposition, encore une fois.
Mais elles ont pu être réactualisées. Par exemple, celle de Sarkis, à chaque fois qu'il a... Enfin, réactualisée, entre guillemets.
Oui, en fait, il les présente à plusieurs fois. Voilà, elle a été présentée 4 fois auparavant, effectivement. Mais c'est quand même une œuvre qui a été, enfin, qui n'a pas été faite pour cette exposition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce sont des points de vue. Moi, je travaille ici dans ce musée depuis 2005 et je vois que ces dernières années, vraiment les questions migratoires, les questions des frontières, du déplacement, des circulations sont de plus en plus présentes au sein des créations des artistes. Donc, je crois que ces questionnements-là sont présents. Donc, c'est pour ça aussi que nous avons trouvé, nous avons 2 œuvres qui sont passées en acquisition dernièrement, comme je disais, de Nélique et Ramirez, toutes les deux hantées par la mer, par la circulation, par le passage, par les difficultés de la traversée. Donc je pense plus que, effectivement, mais encore une fois, c'était les œuvres que nous avions, donc on n'a pas demandé à des artistes de travailler vraiment. Après, nous avons discuté avec eux. Ce qui était aussi, moi, ce qui est très important pour moi, et je pense pour Anne-Laure Flassolière aussi, c'est il ne s'agit pas de faire parler l'œuvre, parce que ce sont des œuvres tellement fortes qui portent leur discours. C'est ce qu'il fallait réussir, si je peux. Enfin, notre gageur, c'était vraiment de créer des échos, des liens entre les œuvres elles-mêmes, mais tout en les laissant vraiment s'exprimer dans leur polysémie, dans leur unicité, dans leur engagement. Voilà. Mais ce qui était important, c'était que le travail que nous avons fait aussi avec Fabienne et Guillaume, parce que finalement nous avons beaucoup travaillé aussi en lisant leur livre, La fin de l'hospitalité, et après ils ont aussi écrit leur texte avec en voyant petit à petit le corps de l'exposition se faire et avec ses œuvres prendre place. Donc voilà, ce sont vraiment des...
Et du coup, donc, par rapport à l'exposition au musée de l'histoire de l'immigration, qu'est-ce que les visiteurs vont voir au Macval? Comment vous avez réparti les œuvres?
Ici, les visiteurs vont au Musée national de l'histoire de l'immigration, ce sont essentiellement des œuvres du Macval. Donc qui a une très belle collection d'art contemporain qu'on a fait un choix au sein des œuvres du Macval. Il y a quelques nouvelles acquisitions de chez nous, mais nous avions déjà montré une grande partie de notre collection en 2011, et puis il y a quelques prêts. Et le Macval, lui en revanche, de son côté, va réinterroge ses collections, il refait un accrochage, une exposition autour au sein même de sa propre collection, mais en intégrant un certain nombre de prêts de nos pièces. Donc c'est vraiment un échange,
un
par exemple, c'est un dialogue. Vous verrez, c'est ce qui fait l'affiche, une œuvre de Kim Souja, Botary Truck Migrateur.
Déjà vu dans J'ai deux amours.
Déjà vu, exactement.
Que vous aviez monté.
Voilà, exactement. Déjà vu dans. Qui est un Duratrans, qui est très beau, où on voit cette femme magnifique, erratique, vue de dos, qui part comme ça vers la place de la Bastille sur un pick-up chargé de ballots. Et en fait, cette œuvre que nous avons acquise ici, qui était une photo rétro-éclairée, est issue d'une résidence qu'avait faite Kim Souja au Macval, où elle avait fait cette performance. Donc, voilà, il y a vraiment des dialogues. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que plus on travaillait, plus on s'apercevait qu'il y avait des familles d'artistes communes entre les deux musées, et c'est très intéressant parce que finalement on a un musée qui est plutôt un musée de société, d'histoire, mais qui accorde une large place à l'art contemporain, et de l'autre côté on a un musée d'art contemporain mais qui est très très soucieux de ces questions de société.
Mais écoutez, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. L'exposition Persona Grata, exposition à 4 mains entre le Musée National de l'Histoire de l'Immigration et le Macval, est à voir jusqu'au 20 janvier.
Tu vois un phallus là?
Ah oui, très bien.
Là, tu vois un phallus?
Ah ouais, c'est évident, vraiment. Regarde, là, c'est le sexe de la femme, tu vois?
Ah ouais.
Pour la suite, on part en Amérique du Sud, se plonger dans les créations géométriques des héritiers des arts précolombiens. L'exposition Géométrie Sud du Mexique à la Terre de Feu a ouvert ses portes il y a un mois à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Elle propose un panorama de créations modernes et contemporaines d'artistes originaires du Cuba, du Venezuela, du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay, de l'Argentine, de la Bolivie, du Chili, du Pérou, de l'Équateur et du Mexique. J'ai cité tous ces pays parce qu'ils sont tous représentés. On navigue de coutume en coutume, d'influence en tradition.
250 œuvres de plus de 70 artistes de l'Antiquité et la période précolombienne aux créations contemporaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des matériaux, on touche un peu à tout. Architecture, sculpture, peinture, vannerie, tissage, en restant dans ces formes abstraites, géométriques, héritées aussi bien de l'art andin que des cultures autochtones encore bien présentes aujourd'hui. Trois commissaires, Hervé Chandès, Alexis Fabry et Marie Perrenne, ainsi que Léane Sacramonet pour l'hommage qui est rendu dans le hall d'entrée à l'artiste vénézuélienne Gego. Des fils d'acier ou d'aluminium très fins, tordus pour en faire des mobiles fragiles pendus dans les airs, on va en reparler, je ne sais plus qui faisait le Venezuela. Alors, d'abord, je me tourne vers vous. Quelles sont vos impressions sur cette exposition? Qui propose finalement, et j'ai envie de dire, le spectateur dispose? Qui veut commencer?
Galadriel. Ma foi, c'était une très belle surprise. Une scène artistique, pour ma part, quasiment inconnue. Alors, j'avais un peu plus connaissance de l'art plus ancien, notamment précolombien, mais c'est vrai que l'art contemporain, l'art du XXe siècle, on en connaît assez peu, finalement, en tout cas pour ma part. Et là, c'était très intéressant. Et j'ai particulièrement aimé le parti pris scénographique, qui est à l'opposé du White Cube. Ça, c'est cool. puisque vraiment... alors, tout est mélangé. C'est vrai que comme ça, on peut avoir... un peu l'impression d'un Capharnaüm, mais en fait, c'est pour permettre un dialogue justement entre les arts plus anciens avec ces artistes contemporains qui s'en sont inspirés. Donc ça, moi, j'ai particulièrement apprécié.
Oui, et puis c'est pas gênant qu'il n'y ait pas vraiment de... que tout soit dans le même espace. Et particulièrement dans la scénographie, moi, j'ai souligné... je me suis fait une petite note. Je trouve que les simèzes au milieu de la salle, avec d'un côté les huiles sur toile de Carmen Herrera et de l'autre d'autres huiles, d'autres tableaux de César Paternosto, ça c'est incroyable. On chemine vraiment dans l'expo. Boris.
Non, c'est vrai, la scénographie est très bien pensée et je te rejoins Galadriel en disant que ça change des types d'expositions qu'on peut voir avec le White Cube. Après, il y a certaines œuvres où justement il y a cette monumentalité et qui auraient peut-être demandé plus d'espace et qui finalement font en sorte qu'on se sente un peu écrasé et qu'elles ne prennent pas vraiment toute leur envergure. Après, pour revenir sur l'exposition en général, moi non plus, je connaissais vraiment très peu d'artistes, donc très belle découverte, très très large, peut-être même un peu trop. Je reste un peu sur ma faim parce que c'est comme si on avait des petites bribes de chaque artiste.
Oui, on picore un peu.
On picore un peu, exactement. Et il y en a certains, ils ont tellement un univers riche qu'on a envie de voir plus de leur œuvre, d'en voir plus. Mais sinon, très belle expo.
C'est vrai que pour revenir sur la salle où tu dis que c'est une salle un peu petite... au sous-sol. C'est vrai que le rez-de-chaussée, les artistes sont beaucoup plus mis en valeur. Freddy Mamani notamment, l'architecte. Je rigole parce que t'as été un peu déçu, mais tu t'étais un peu focalisé, on en reparlera après.
Exactement, on en reparlera.
C'est l'architecte. Mais du coup, c'est vrai que dans le rez-de-chaussée, les trois, il me semble trois ou quatre artistes sont beaucoup plus mis en avant qu'en effet dans le sous-sol.
Oui, bah en effet, c'est sûr que le sous-sol, quand on descend, quand on arrive quand on arrive au plein pied, oui, donc on a ces trois artistes qu'on des salles monumentales.
Parce que c'est des propositions architecturales, donc
qu'on a besoin de place complètement. Mais c'est sûr que quand on descend après au sous-sol, on a cet amas, ce fouillis d'œuvres, donc qui au premier temps peut nous sembler un peu comme un Capharnaüm, mais après on arrive à tisser des liens, à faire des parallèles, et c'est là où ça prend tout son sens.
Et cette possibilité de faire des liens esthétiques, je trouve que ça manque très souvent dans les expositions aujourd'hui d'art contemporain. Mais la Fondation Cartier pour l'art contemporain est plutôt adepte de ce genre de scénographie. En tout cas, c'est appréciable.
Vraiment.
Et Marie, toi, t'en as pensé quoi ?
Alors, moi, j'ai trouvé qu'elle était absolument fabuleuse. C'était vraiment... une féerie, en fait. Il y a les deux premières salles, plutôt architecturales, avec... On est tout de suite plongé, en fait, dans le bain de Freddy Mamani. C'est une salle de bal, en fait, on est invité à faire la fête avec lui.
Mais toi, du coup, ça a fonctionné, cette salle de bal, au début? Moi, j'ai trouvé que c'était un peu... Du coup, que c'était difficile. On s'arrêtait pas vraiment devant ces vidéos, on s'asseyait pas vraiment dans cette salle de bal.
Au début, ça m'a pas plu, en fait, d'avoir une vidéo pour m'asseoir direct, alors que j'avais même pas encore marché dans la fondation. Mais après, en fait, une fois qu'on s'assoit, on se laisse un peu prendre par l'ambiance. Même les poufs, en fait, ils sont avec des tissus un peu traditionnels. Donc, j'imagine qu'il a même pensé à ça, en fait. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et la deuxième salle aussi, elle était très centrée sur l'architecture. Enfin, c'est vraiment le rez-de-chaussée de la fondation, avec les œuvres de Gégaud, notamment. Qui m'ont fait un peu penser aux œuvres d'Alexandre Calder, en fait, très géométriques.
Oui, parce que les œuvres de Gégaud, donc, c'est donc ces fils suspendus, des espèces de mobiles assez fragiles. C'est vrai qu'on n'en a, on en a pas parlé pour l'instant.
Oui, et puis finalement, elle répondait totalement, en fait, avec l'espace de la fondation, qui est entièrement vitré, de même que le mur fait par Solano Benitez et Gloria Cabral. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bel effort de la fondation d'avoir deux salles entières sur l'architecture.
Puis parce qu'en plus, le mur dont tu parles, avec des motifs géométriques, c'est un mur qui a été spécialement conçu pour l'exposition, c'est ce qu'ils disent spécifiquement, donc pour justement cette salle vitrée.
Oui, complètement. Et comme ça, la salle de bal de Freddy Mamani, c'est la première salle qui est hors de son pays, la Bolivie. Voilà, et puis ensuite vous avez les deux salles plus sur les arts décoratifs, la peinture, donc assez classique, la première salle blanche au sous-sol, avec pléthore d'artistes, et puis enfin la dernière salle qui est plus intimiste, avec une sorte de bleu incroyable et un jeu sur la lumière. Pour le Paraguay, en fait, les œuvres du Paraguay qui est juste fabuleuse.
Et toi, du coup, en plus, tu m'as dit juste avant que c'est une exposition que tu ne serais pas forcément allée voir de prime abord. Donc, c'est une bonne surprise.
C'est complètement une immense surprise. Et c'était vraiment très intéressant, en plus, de voir qu'il y avait autant les influences de la peinture américaine, de l'art américain, et de l'art traditionnel précolombien, amérindien, mexicain.
Oui, donc plutôt positif. Hein. Plutôt positif, on est d'accord. Alors, est-ce qu'on commence tout de suite notre tour de l'exposition? Vous avez d'autres remarques à faire ou c'est bon?
Non.
Allons-y.
Allez, donc dans l'ordre, on commence par le rez-de-chaussée et les créations de Freddy Mamani. Je rigole parce qu'on en a parlé avant. Boris, du coup, on commence par Freddy
Allez,
ou autre
commençons
chose
par Freddy. Non, Freddy, donc on retrouve sur beaucoup d'affiches, donc ces façades colorées qui nous appellent, qui nous invitent à entrer. Et on arrive dans le lieu et donc dans une salle de bal.
Oui, ils ont reconstitué une salle de bal.
Exactement, une salle de bal, donc aux couleurs pimpantes, éclatantes, pleines de lumière, de jeux de textures, de symétrie. Et donc au milieu de cette salle, il y a une vidéo explicative de la démarche de l'artiste. Et vidéo qui prend beaucoup de place, je trouve, dans le lieu. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est sûr qu'elle est très instructive. On apprend vraiment toute sa démarche, le contexte dans lequel il travaille.
Mais est-ce qu'on s'arrête suffisamment pour voir, je ne sais
exactement,
pas...
Exactement, la salle. Moi, quand j'y suis allé, tout le monde était assis, donc... au milieu, sur les sièges, regardait les vidéos. Et en regardant les vidéos, après, se rendait compte finalement que, autour de nous, on est dans cette salle de bal-là. Donc, j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais vraiment... J'avais vu ces œuvres donc, sur les cartons d'invitation, sur les affiches. J'avais fait un peu de recherche auparavant. Et c'est sûr, c'est tellement des façades, tellement quelque chose qui est clinquant, qui appelle au mouvement, à la couleur, que je m'attendais vraiment à quelque chose de... à quelque chose vraiment de...
De plus interactif, peut-être.
De plus interactif, oui, et de plus impactant. Et donc, finalement, cette salle de bal qui reprend son intérêt pour le jeu de couleurs et pour les motifs de sa communauté, je trouve perd un peu d'intérêt et a peut-être un peu moins d'impact que ce que j'imaginais.
Et surtout dans la vidéo, je trouve que ça met du temps. En fait, c'est des extraits aussi d'émissions de radio où il explique un peu sa démarche, mais on met du temps à rentrer dans sa démarche qui est en fait tu vas revenir dessus, des architectures plutôt pour des gens de classe très aisée quand même, en fait.
Exactement, oui.
Et au début, on croit que c'est plutôt... Il y a une dimension populaire avec ces salles de bal, mais en fait, c'est plutôt
Non, non, ça s'adresse vraiment à la nouvelle... Oui, des maisons de riches, donc c'est des bâtiments, donc on parle beaucoup de ces façades éclatantes, mais quand on rentre à l'intérieur, tout est savamment pensé, c'est-à-dire que le premier, le plein pied, c'est souvent réservé à des boutiques, après aux étages, on retrouve ces salles de bal, donc souvent sur deux niveaux, et après... Sur le dessus du bâtiment, il a ce qu'ils appellent les chalets et qui sont de véritables petites maisons, donc des petites maisons bourgeoises et où là, ben, finalement, ces nouveaux riches habitent. Donc toute la structure est vraiment bien pensée, mais ça s'adresse en effet à la nouvelle élite de El Alto.
Mais est-ce qu'il y en a beaucoup en plus dans la ville, finalement?
Il y en a de plus en plus. C'est sûr que depuis les années 2000, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça a été repris. Donc ce code architectural donc de Manani a été copié. Donc même lui s'en amuse, il ne regrette pas ça, au contraire, parce que ça offre vraiment une identité visuelle, une identité culturelle à cette ville, donc petite sœur de El Paz, donc qui vivait dans l'ombre, hein, petite ville pauvre. Et donc Manani, c'est d'ailleurs tout ça, tout son travail, c'est justement de penser l'identité culturelle, donc de donner une identité culturelle à sa ville. Et donc je pense qu'il en est même fier, justement, que ces codes visuels qu'il a mis en place soient repris.
Bon, alors pour la suite, du coup, quels sont les autres artistes qui t'ont intéressé, toi? À part Freddy Mamani, donc... impressionnant dans le hall d'entrée. Et toi, Galadriel, tu t'es arrêtée de, justement par curiosité, est-ce que tu t'es assise un peu devant la vidéo ou pas trop?
Non, pas beaucoup. Je suis plutôt passée à côté, en fait. J'ai vu, je suis rentrée rapidement dans l'espace, mais j'ai pas pris le temps de regarder la vidéo.
Et sachant que cette vidéo, en plus, elle est assez longue, hein. Je pense qu'elle fait une quarantaine de minutes on en a vraiment besoin, je pense, pour comprendre l'œuvre de l'artiste.
Ouais. Ce qui est un peu dommage, parce que sinon, les œuvres sont plutôt... Enfin, se laisse appréhender sans spécialement de cartels. Moi, j'ai lu les cartels, mais je trouve qu'elles étaient quand même... Après, c'est très visuel aussi, parce que c'est des formes géométriques. Pas besoin d'expliciter 30 000 ans ce qui se passe là. Alors, pour la suite, Boris.
Moi, sans mauvais jeu de mots, je file maintenant en Colombie pour parler des tissages d'Olga de Amari. Donc la colombienne, moi, gros coup de cœur.
Ah, c'est ce que j'ai préféré.
Ouais, vraiment. Ouais.
Donc, dans la salle sur le Paraguay et l'Uruguay.
Exactement, la salle dont tu vas nous parler, mais
j'en ai
content
parlé aussi
parce que...
le cas. Tu m'as piqué mon artiste.
Mais oui, mais elle est colombienne, je m'occupe de la Colombie, Florence. Donc oui, je parle de Olga, donc gros coup de cœur de cette exposition pour ma part. Donc on se retrouve dans une pièce à lumière tamisée face à 6 modules de fils suspendus. Fil conducteur de son œuvre.
Qu'on ne peut pas traverser, ces modules.
Qu'on ne peut
frustrée.
Pas traverser. Exactement, ouais, je suis
on
complètement d'accord.
On ne peut pas passer à l'intérieur, ouais.
Mais d'un autre côté, qui réagissent à nos mouvements. Et à chaque fois, quoi, vraiment presque comme une œuvre interactive. C'est-à-dire, quand on bouge, on a ces modules colorés et les formes apparaissent, les formes se meuvent. Et vraiment très intéressant, très poétique comme œuvre. Mais c'est vrai que j'aurais voulu, moi aussi, me mettre à l'intérieur.
Mais c'est l'artiste souhaite qu'on puisse les traverser ou c'est un soit scénographique qu'on ne puisse pas y aller ou est-ce que l'artiste n'a pas prévu qu'on...
Non, elle n'a pas prévu, je pense pas. Galadriel, on regarde d'un air... Non, non, c'est vrai. L'artiste n'a pas prévu, je pense. Mais ça donne envie parce que c'est quand même...
C'est la couleur, ça appelle à la rêverie, à l'introspection. Ouais. Non,
je pense que c'est un peu du gâchis qu'on puisse pas aller dedans. Mais bon. c'est son choix, Olga. Olga. Oui, pardon.
Olga. Oui, donc c'est ça, ça appelle à l'introspection, au silence. Donc on se retrouve devant ces fils, ces suspensions de fils colorés donc, qui prennent véritablement vie avec nos mouvements. Beaucoup de références à la culture précolombienne avec de nombreux jeux de couleurs et de motifs.
Très bien. Et dernier artiste alors ?
Et dernier artiste, je parle donc du photographe argentin Facundo de Souviria, excusez-moi pour l'accent. Véritable voyageur et amoureux de paysages urbains, il photographie sans cesse depuis les années 80 de nombreuses villes d'Amérique du Sud. J'ai particulièrement apprécié son cadrage frontal qui permet de capter l'âme d'un lieu tout en le comparant à d'autres. On se surprend ainsi à mettre en parallèle et à relever les formes et les couleurs de ces différents clichés. Je termine donc avec ce travail qui pourrait résumer pour moi toute l'exposition. Une Amérique du Sud colorée, parfois mal connue, mais qui a tant à nous offrir.
Ah, c'est très bien dit. Alors, Brésil, toi donc, en effet, on a fait par pays. Et pas par salle spécialement, puisqu'en fait, il y a une seule salle au sous-sol et puis les salles du rez-de-chaussée.
Merci, Florent.
Donc, toi, t'as choisi le Brésil.
Oui, exactement. Puis en plus...
Beaucoup d'artistes du Brésil. Ils sont assez nombreux dans l'expo.
Ouais, beaucoup d'artistes du Brésil. Alors, je voudrais tout d'abord mettre en parallèle deux artistes qui sont Lydia Clark et Elio Oiticica. Alors moi aussi, hein, je suis désolée, mais les accents. moi, j'ai fait allemand LV1, donc tout ce qui est latin, c'est foutu. En fait, ces deux artistes ont travaillé dans le même groupe, ont mené des réflexions communes. Ils ont participé à la création du groupe brésilien Grupo Frente à Rio de Janeiro en 54. C'est un groupe qui, en fait, rejetait la peinture brésilienne figurative et nationaliste pour s'intéresser plutôt à des théories de l'abstraction concrète, concrétiste, c'est-à-dire en fait cette abstraction géométrique du début du XXe siècle européenne, dont Mondrian est l'un des artistes les plus connus. Cependant, ces artistes vont aller au-delà de l'approche purement rationaliste de cette abstraction européenne pour y ajouter des dimensions beaucoup plus sensibles et de nouvelles relations entre l'œuvre et l'espace qui l'environne. Alors Lydia Clark, elle était née à Belo Horizonte en 1920, elle est décédée en 88, ces deux artistes sont décédés, et elle a étudié de fait à Paris en 1951, elle est partie étudier à Paris, donc connaissait bien cette abstraction géométrique. Mais dès les années 50, et donc avec ce groupe, elle commence ses recherches, donc au départ vraiment de manière... Voilà, abstraction très géométrique. Elle compose des œuvres avec plusieurs panneaux de bois découpés dans des formes géométriques assez simples et elle les juxtapose par emboîtement. Donc il y a une idée de module, de répétition, mais déjà de s'affranchir aussi du plan bidimensionnel de la peinture. Alors ce sont des artistes en tout cas qui vont s'extraire aussi hein, de cette abstraction plus picturale et bidimensionnelle pour jouer avec l'espace. Et l'œuvre qui est présentée ici à l'exposition n'est plus du tout un panneau mural, mais bien une sculpture. Elle est constituée de plusieurs plaques métalliques jointes par des charnières, avec un aspect assez industriel, comme si une plaque de métal avait été un peu froissée par une presse. Pourtant, l'artiste qualifie ses œuvres d'entités organiques, pouvant changer de forme au gré des manipulations par le visiteur. Et d'ailleurs, le nom de l'œuvre, Bicho, signifie « bestiole ».
Mais c'est pareil, on ne peut pas le manipuler.
Alors voilà.
On devrait.
Bon, c'est ça.
Celui-ci, on devrait. C'est pour ça que je me suis permise tout à l'heure de demander, parce que ça change tout.
On veut toucher.
Surtout que cette œuvre a été faite pour être manipulée. Ouais. Et là, elle est dans une vitrine, hein, sous plexiglas. Donc effectivement, elle perd cette dimension relationnelle avec le spectateur. Mmh. Mais c'est vrai qu'en y pensant et en y regardant comme ça, finalement, cette structure complètement abstraite, on peut lui apporter un regard assez, comment dire, pas anthropomorphe, mais un caractère un peu animal, comme s'il y avait ces quatre pieds qui sont sur le sol et une idée d'une tête qui pourrait se relever vers nous. Et pour l'artiste, elle intègre comme ça dans ses œuvres une interaction totale et existentielle, comme le dit l'artiste. En fait, l'œuvre, pour réellement et pleinement exister dans sa conception, doit rentrer en interaction avec le visiteur. Donc, c'est là où l'exposition, malheureusement, et la conservation des œuvres font que souvent ce genre de relations ne sont plus possibles. Ouais. Et donc je voulais le mettre en lien avec Elio Oiticica qui lui aussi en fait a fait partie du même groupe et là c'est une sculpture également qui est présentée qui s'appelle V6 Relevo Espacial Vermelho. Ça fait partie d'une série d'œuvres réalisées avec plusieurs plaques de contreplaqué assemblées les unes aux autres, toutes peintes dans une tonalité de rouge, d'où le vermelho. C'est la version 6 du coup ici et elle est suspendue au plafond, donc la sculpture aussi devient s'abstrait soit du mur, soit du sol pour prendre beaucoup plus de liberté dans l'espace et elle oscille avec les mouvements de l'air insufflés par les visiteurs et nous aussi en changeant de point de vue sous la sculpture nous apparaît complètement différemment, plus dimensionnelle ou avec plus d'ampleur en fonction de notre point de vue. Donc voilà pour les deux premiers artistes. Donc finalement...
Et toi, est-ce que tu as été un peu plus sensible dans cette exposition aux sculptures ou...
En fait,
au relief, un peu.
C'est, en fait, j'ai été sensible à la variété d'œuvres qui nous sont présentées, surtout.
Oui, au niveau des matériaux, au niveau de la présentation.
Des supports, les médiums, les intérêts. Parce que là, c'est vrai que c'est des intérêts qui sont quelque part très plastiques, qui sont très... comment dire, très, très...
Mais c'est agréable, c'est, que ce soit justement très plastique pour une fois et qu'il n'y ait pas non plus...
Mais en même temps, je voulais continuer avec une autre artiste, Amma Mariani, qui, elle, a une proposition complètement différente, c'est une photographe, et justement, qui elle, s'est beaucoup, qui s'est inspirée de ses traditions, de, du folklore du Brésil. En fait, elle est partie à partir des années 70, elle est retournée dans sa région d'origine qui est le nord-est, au Brésil, et elle a commencé à prendre en photographie les paysages, notamment les paysages urbains. Et là, on a une série de façades qui est exposée, de ces façades de maisons. Elle s'est, en fait, elle met en valeur les couleurs de ces façades peintes, des couleurs vives qui soulignent les structures géométriques de l'architecture. Et elle s'est rendue compte que plus les villages étaient isolés et modestes, plus les peintures étaient riches et colorées, comme un contrepoint finalement à la pauvreté dans laquelle vivaient ces personnes. Et ces photographies, je les ai trouvées très poétiques. Finalement, ces décorations de façades rendaient ces paysages quasiment abstraits. Et l'intensité lumineuse, mais aussi l'épuration des formes, crée cette atmosphère assez onirique et qui extrait ces paysages de cette dimension temporelle. Finalement, on ne sait plus tellement où on est, où on se trouve. On dirait presque des peintures un peu surréalistes. Voilà, ça m'a pas mal plu.
Génial.
Ouais.
Alors moi, pour la suite, ce qui m'a plu, et en plus on en a discuté, donc j'ai pris tout de suite cette salle, j'avoue, parce qu'elle me plaisait beaucoup, sur le Paraguay, les traditions de deux tribus, les Ayoreo et les Nivaclé. C'est bien parce que je trouve qu'on touche un peu à toutes les influences. Toi, tu soulignais l'influence des avant-gardes européennes, on a souligné l'influence des traditions précolombiennes, et là, on est vraiment sur les cultures autochtones, dans la salle sur le Paraguay, donc les traditions de deux tribus, les Ayoreo et les Nivaclé. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Ces communautés indigènes sont très attachées à leur terre et à la forêt, et donc l'accélération de la déforestation dans ce pays, notamment dans la région du Chaco, menace leur stabilité. Alors, ce sont des peuples qui vivent en osmose avec la forêt, on le voit très bien dans cette salle. Par exemple, l'artiste Nivaclé Ortiz, donc de la tribu Nivaclé, né en 1962 au Paraguay, témoigne par ses dessins de cet attachement vital à la forêt. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, c'est des arbres à l'encre et aussi faits au stylo et au crayon. En fait, il prend comme... Il était d'abord ouvrier agricole, et il a abordé l'art et le dessin assez tardivement, et donc ses influences, ça va être son environnement quotidien qu'il dessine. Les arbres autour de sa maison, les collines, les forêts, les champs et la lumière qui passent à travers les feuillages. Et donc du coup, d'abord au crayon, puis au stylo, il sature et il quadrille l'espace d'innombrables lignes qui composent, une fois achevé, un paysage de motifs géométriques. Donc ça m'a beaucoup plu, et je pense notamment à ce dessin d'un arbre à l'encre sur papier qui se détache en blanc sur le fond d'une forêt noire.
Oui.
Qui n'est d'ailleurs pas dans la salle sur le Paraguay et l'Uruguay, qui est dans la salle du sous-sol juste avant, si on veut une géographie d'exposition. Très beau travail. Alors, les autres créations, je pense aux créations textiles de ces deux tribus. Elles sont principalement réalisées par des femmes, d'ailleurs. Ce sont des sacs et des ceintures réalisées avec des fibres végétales de caraguata. C'est une plante du coin que je ne connaissais pas. Et les ornementations restent toujours les mêmes dans la lignée des motifs précolombiens géométriques, des triangles, des lignes, des motifs entrelacés. Autre peuple qui tisse, les Mbia Guarani, qui fabriquent carrément des objets avec des objets tressés à partir de fibres végétales. Et on voit dans l'exposition 6 bâtons de commandement qui servent pour des cérémonies et une sculpture en forme de serpent, justement avec ces motifs encore géométriques de fibres, tout ça sur le bois. Et puis, pour finir, ce que j'ai aimé, c'est la plongée dans l'univers du peuple Ishir, en compagnie de Ticio Escobar. C'est la vidéo de cette salle, en fait, sur le Paraguay. Et Ticio Escobar, c'est le directeur du Museo del Barrio d'Asunción, la capitale du Paraguay. Et donc, chaque année, au début du printemps, a lieu le Debilibi, qui est une cérémonie complexe et fondatrice du peuple Ishir, au cours de laquelle les jeunes hommes se voient transmettre le savoir ancestral de leur culture. Et Flores Balbuena et Bruno Barras, qui sont des artistes Ishir, documentent dans leurs dessins les costumes de ces cérémonies. Il y a de nombreux dessins donc, dans cette salle. Et au départ, ce peuple était plus de 300. Aujourd'hui, ils sont 80. Donc c'est très peu. D'où l'importance de continuer à documenter leurs traditions. Voilà, donc c'est une salle vraiment qui refait, qui nous fait vraiment plonger dans ces traditions de ces tribus autochtones. Et puis je terminais par la création textile d'Olga de Amaral, mais du coup Boris m'a coupé l'arbre sous le pied. Donc c'est une, c'est, je trouve vraiment plus une création aérienne qui va très bien dans cette salle. Je trouve qu'il se recoupe vraiment bien avec avec les créations de ces tribus. Voilà, donc c'est tout pour cette salle. Et pour finir, toi Marie, t'as choisi le Mexique, Cuba et le Venezuela. Et je suis hyper contente de savoir que tu as pris dans les trois artistes Carmen Herrera, ma petite chouchoute de l'exposition.
Oui, tout à fait. Donc j'ai choisi de parler d'un artiste par pays. Alors je vais commencer par Gustavo Pérez. C'est un artiste mexicain qui est né en 1950 au Mexique. Il vit toujours là-bas, à La Pitaya. Dans les années 70, il a fait des études d'ingénierie, de maths et de philo. Le grès, c'est son matériau de prédilection. Avec des lames métalliques, il va y tracer des formes. C'est un art très épuré. On a l'illusion d'une autre matière sous le grès, en fait. Alors, juste pour préciser, le grès, c'est une céramique mate qui est cuite environ entre 600 et 800 degrés. Enfin, il y a tellement de techniques de céramique que ce serait un peu fastidieux, mais techniquement, c'est ça. C'est moins que la porcelaine. C'est pas vitrifié du tout, ça n'a pas du tout le même aspect. Depuis les années 2000, il a percé sur le marché international, en fait, notamment aux États-Unis, en Europe. Il est beaucoup connu en France, au Japon aussi. Il a été invité au musée de la porcelaine à Sèvres pour faire des porcelaines, avec des incisions, évidemment. Il a fait des œuvres en fait, qui sont conservées au LACMA de Los Angeles, dans des fondations importantes au Japon, grand pays de la céramique. Il a toujours été, lui, dans l'abstraction géométrique, en fait. C'est lié, je pense, à sa personnalité et à ses études, parce qu'il a fait des études d'ingénierie, donc c'est quelqu'un de technique. Il a fait des études de mathématiques et de philosophie, donc il était à même de transformer toutes ses études en concrètement des grès qui sont absolument splendides. Aujourd'hui, c'est une tête de file importante en céramique, en fait, de manière internationale. Ça tranche complètement avec la création actuelle ou traditionnelle du Mexique. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très reconnu au Mexique ou à l'international pour la céramique.
Et donc du coup, à côté, on a Carmen Herrera sur les cimes, donc à côté de ces céramiques qui sont très bien mises en valeur aussi sur des socles.
Oui, tout à fait. Alors Carmen Herrera, elle est née en 1915 à La Havane, à Cuba. Elle est arrivée à New York dans les années 50. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vendu son premier tableau en 2004 à 89 ans. Elle a fait des études à New York dans les années 40, des études d'art. Mais elle a été reconnue, mais vraiment, il y a très très peu d'années, parce qu'elle a été accrochée dans une galerie à Manhattan, dans une série sur les femmes et l'abstraction géométrique. Et elle a toujours peint. Elle s'est inspirée de ses séjours à Paris, en fait, dans les années 50-60. Elle a rencontré Mondrian, le mouvement de Stael, le suprématisme de Malevitch, l'art russe de cette période. Et donc, au début, elle faisait de l'expressionnisme abstrait lyrique. Et après, eh ben, avec toutes ces influences-là, elle a commencé à faire des tableaux bichromes avec des formes très géométriques et des grands formats. Et en fait, elle n'a pas eu autant de reconnaissance alors qu'elle a fait des choses complètement novatrices, mais c'était une femme. Et on lui a dit que ce n'était pas forcément un art très très féminin, d'ailleurs, à l'époque. On ne pouvait pas imaginer qu'une femme fasse quelque chose comme ça. Et ses contemporains, ce sont trois hommes américains, en fait, qui vendent leurs toiles beaucoup plus chères qu'elle actuellement, d'ailleurs. C'est Frank Stella, Kelly Ellsworth et Barnett Newman. Voilà pour Carmen Herrera.
Et le dernier, du coup, c'est un homme que tu as choisi.
Oui, Venezuela. Voilà. Un Vénézuélien qui s'appelle Alejandro Otero, qui est né en 1921, décédé en 1990 au Venezuela. Il arrive à Paris, toujours Paris, en 1945. Il a d'abord été inspiré par les cubistes, puis Mondrian. En 1955... Il commence un cycle d'œuvres qui s'appelle les Coloritmos. Vous en avez un à la Fondation Cartier. C'est un tableau strié de lignes noires et blanches avec des formes géométriques de couleurs qui se détachent Et le cerveau, c'est très intéressant parce qu'il reconstitue la forme qui est cachée derrière la ligne noire. On a l'impression que c'est en mouvement, en fait. Et ces Colorithmos, c'est un très très grand succès parce que le MoMA les achète directement en 1967, certains d'entre eux. Et puis lui, en fait, l'art géométrique, il en aura toujours fait, mais ça va l'amener vers la sculpture urbaine, un art sociétal qui est par tous et pour tout le monde, que tout le monde peut comprendre. Et puis donc, les critiques d'art l'ont classé dans l'art cinétique, comme Victor Vasarely ou Carlos Cruz Diez, c'est aussi un Vénézuélien. Et on l'a aussi classé dans l'op art, hein, l'art en mouvement. Aujourd'hui, il est très reconnu dans son pays. Il a un musée à son nom, il a des prix d'art à son nom. C'est vraiment une figure de proue et il a fait énormément d'abstractions géométriques.
Merci Marie. Vous l'avez compris, si vous avez envie de plonger dans l'univers géométrique des cultures autochtones de l'Amérique latine, foncez voir l'exposition Géométrie Sud, du Mexique à la Terre de Feu, présentée jusqu'au 24 février à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Tout de suite, je me tourne vers toi, Boris, c'est l'heure de ta première chronique. De quoi veux-tu nous parler ce soir ?
Alors oui, pour ma première chronique, je vais faire une chronique un peu personnelle. Je vais vous parler d'une rencontre, la rencontre que j'espère toujours. Je ne sais pas si ça va être un homme ou une femme, si elle sera vieille ou s'il sera gros. Je ne connais pas sa couleur de peau, ni son allure, pas même sa silhouette. Je ne sais pas si ça va être un enfant, un chien, un homme errant. Je ne sais même pas où on va se rencontrer, d'ailleurs je ne sais même pas si on va réussir à se croiser. Mais j'espère et j'attends, toujours, tous les jours. C'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui m'excite. C'est de sortir là, parfois sous la pluie, dans la nuit ou sous le zénith, dans une ville étrangère ou dans mon village, j'attends. J'attends inlassablement cette rencontre, imprévue, impromptue. J'aime quand c'est rapide, mais parfois j'attends des heures, perché sur des marches ou caché des regards. Je suis particulièrement lucide à ce moment-là. J'observe le chassé croisé d'inconnus, les courbes d'une rue. Sensible à mon environnement, je me place au meilleur endroit et patiente. J'attends le bon moment, examinant ce qui m'entoure, scrutant ce qui peut laisser trace. Et quand vient le moment, quand je sais que c'est le bon, là, tout de suite, j'appuie. Et j'arrête le temps. De tous les moyens d'expression, la photographie est le seul qui fixe un instant précis. C'est ce que relève Henri Cartier-Bresson et qui me bouleverse. Ce moment n'existera plus, la peau sera différente, la posture pas tout à fait la même, et le lieu aura indéniablement changé. Alors tous les jours, je ressors inlassablement avec mon appareil photo et fixe ce temps qui n'existera plus. La Natacha de Manet, sans doute morte, emportant avec elle son regard si puissant. Les mains du travailleur de Tina Modotti ont cessé de racler la terre du Mexique, et les paysages d'Ansel Adam qui semblaient si immuables, eux-mêmes n'existent plus vraiment. Tout passe, mais la photographie, elle reste. Elle fait trace. Alors oui, tout le monde n'est pas photographe, mais chacun de nous a la capacité d'être là, au monde, à cet instant. Dans cette émission, on vous parle d'art, de belles expos, de beaux tableaux. Mais pour moi, un des plus beaux musées, ça peut être notre vie quotidienne. Elle est pleine de surprises et de beauté à qui sait la regarder. Alors levons un peu nos yeux, histoire que l'on se rencontre.
Merci Boris. Comme d'habitude, on finit l'émission par un tour de table des coups de cœur. Un tour de table rapide, du coup, parce qu'on n'a pas tous des coups de cœur. Mais Boris, je me retourne vers toi. Mais tu as une expo qui t'a tapé dans l'œil.
Exactement. Moi, je vous emmène voir le photographe Dave Hess, qui est exposé au bal jusqu'au 23 décembre. Donc, autant vous dire qu'on ne ressort pas indemne de cette exposition qui regroupe pour la première fois en France autant d'œuvres de l'artiste. Plus de 150 tirages parviennent à capter l'isolement de personnes face à la société américaine des années 50. Intimiste et coup de poing, on rentre nécessairement en dialogue avec ces solitudes qui font écho aux nôtres.
Marie ?
Alors, mon coup de cœur, cette fois-ci, c'est l'exposition sur Zhao Buqi au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. L'exposition se termine le 6 janvier. Tous les grands formats de Zhao Buqi depuis 1956, quand il a commencé à faire de l'abstraction. Et en fait, c'est très intéressant parce que ces grands formats, ils sont à la croisée de l'influence de la peinture américaine, de la scène parisienne de cette époque dont on parlait pour l'abstraction géométrique dans l'exposition Géométrie Sud. Puis il y a aussi la peinture chinoise qui joue un rôle dans la peinture de Zhao Buqi. Voilà, donc c'est pour prolonger la réflexion sur Géométrie Sud.
Museum Side, c'est fini pour ce soir. Merci à Isabelle Renard, merci à vous Boris, Galadriel, Marie et Enora. Rendez-vous le dimanche 9 décembre pour une émission consacrée à la photo. En première partie, je vous propose de visiter l'exposition de Baldus à Le Grès, les primitifs de la photographie du 19e siècle à Chantilly, en compagnie de sa commissaire Nicole Garnier au château de Chantilly en Picardie. En deuxième partie, on débattra de l'exposition sur Dorothea Lange, politique du visible, à voir jusqu'au 27 janvier 2019 au Jeu de Paume. Restez sur Radio Campus Paris, la soirée continue.